Alors, nous sommes de retour de vacances. Et effectivement, ça sent un petit peu encore les vacances. Si vous voyez la décoration que Damaris a préparée, qui est juste sur la table, effectivement, c'est l'été. Et quand même, je suis assez surpris de voir qu'en ce dimanche, on est assez nombreux pour un dimanche d'été, un dimanche d'août. En tout cas, bienvenue aux uns et aux autres. Il y a des personnes qu'on voit occasionnellement et vous êtes bien sûr toujours les bienvenus. On est content de vous voir. Entrons dans le vif du sujet. Lorsque nous tombons sur le thème de la folie dans la Bible, est-ce que nous nous sentons concernés? Je ne vous propose pas ce matin un bilan de santé mentale, mais plutôt un bilan de santé spirituelle. Parce que quand on parle du thème de la folie dans les Écritures, eh bien en fait, la folie est toujours opposée à la sagesse, à l'intelligence, au bon sens. Et si la sagesse commence par craindre Dieu, la folie signifie donc une absence de crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas une définition clinique que je vous livre de la folie, mais une définition spirituelle. Donc, lorsqu'il est question de folie, comme c'est le cas dans notre texte, eh bien, avant tout, c'est l'attitude de la personne qui ne craint pas Dieu. Le Qohélète, dans ce qu'il a observé, a constaté qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Ça, c'est l'objet du premier verset dans notre chapitre, que nous n'avons pas lu, mais c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Autrement dit, même le sage peut finir par faire des choses insensées, peut faire preuve de folie. Et à cause de cette folie, peut gâcher sa vie, peut gâcher l'honneur qu'il a peut-être pris du temps à construire, sa réputation. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Nous avons un exemple tout trouvé dans la Bible. Pensez au roi Salomon, le roi d'Israël le plus sage. Et pourtant, à la fin de son règne, c'est la folie qui l'a emporté. Pas la folie au sens mental, mais folie dans ses attitudes, folie dans ce qu'il a décidé de faire. Écoutez 1 Roi chapitre 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes, et il en avait énormément, entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Voilà la folie dont il est question dans la parole de Dieu. C'est lorsque l'homme commence à se détourner de Dieu, alors même que c'est le plus sage des hommes. S'il en est ainsi du plus sage des rois, cela signifie que nous ne sommes pas non plus à l'abri de la folie, au sens biblique. Il peut malheureusement nous arriver de vivre comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu, comme quelqu'un qui ne lui obéit pas, comme quelqu'un qui ne le respecte pas. Et il nous faut examiner notre chemin en ce moment et suivre les conseils de l'Ecclésiaste. Ce dernier, comme nous l'avons étudié, a vraiment tout essayé au cours de sa vie, la sagesse comme la folie. Et il a constaté que rien sous le soleil n'échappe au côté dérisoire, fragile, frustrant, décevant. Rien sous le soleil n'échappe à cela. De plus, cela nous est rappelé dans notre texte, l'être humain ne sait rien de son avenir. Il ne peut pas deviner ce qui arrivera demain, ni même dans l'heure qui suit. Il est un être ignorant et bien malin et celui qui croit connaître ce qui arrivera après lui. Dans ces conditions qui sont partagées par toute l'humanité, le Qohélète estime qu'il vaut mieux être sage quand même, tout en indiquant que la sagesse elle-même a aussi des limites. En fait, être sage ne permet pas d'échapper à la condition humaine, abîmée par le péché. Être sage ne nous garantit pas que nous réussirons à tous les coups. Nous sommes bien dépendants de la tournure des circonstances, bonnes ou mauvaises. Et malgré tout, mieux vaut quand même le chemin de la sagesse pour notre vie. Mieux vaut prendre la route où nous tenons compte de Dieu et de sa parole. Et c'est d'ailleurs la conclusion du livre, que nous verrons un peu plus tard, à la fin de cette série. Mais déjà, je lis cette conclusion. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Alors demandons-nous ce matin, suis-je toujours sur ce chemin de sagesse? Ou me suis-je égaré sur le sentier de la folie? Et la parole de Dieu va nous aider ce matin à bien nous examiner, comme un miroir devant nos yeux et à nous redresser si c'est nécessaire. Et assurément, je pense que c'est nécessaire. Premièrement, examinons notre cœur. Ah, notre cœur, le siège de notre volonté, le siège de nos affections, le siège de nos motivations, le siège de nos pensées, notre cœur. C'est là que tout se joue dans notre vie quotidienne, dans notre cœur. Le croyant est normalement celui qui a le cœur sage, parce qu'il tient compte de Dieu et de sa parole. Son cœur a été transformé par l'Esprit de Dieu. Et fondamentalement, le chrétien est pour Dieu et pas contre lui. Mais son cœur est encore vulnérable. Le cœur du croyant est encore vulnérable. Il a encore besoin d'être changé. Et ce qui le prouve, c'est le penchant du pécheur à marcher du mauvais côté. Regardez de nouveau les versets 2 et 3. Le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. À coup sûr, si c'est la sagesse et la crainte de Dieu qui anime notre cœur, nous nous tenons du bon côté. Par contre, pour l'homme stupide, toute sa démarche témoigne de sa folie. Et il y a une hésitation dans la traduction du verset 3. Est-ce que le fou révèle à tous qu'il est fou ? Ou bien, dans d'autres traductions, nous voyons qu'il traite les autres de fous. Et dans ce dernier sens, cela signifierait que l'insensé ne se rend même pas compte de sa propre folie. Il pense que ce sont les autres qui sont fous. Quand nous ne connaissions pas le Seigneur, pour celles et ceux qui ont mis leur foi en Christ, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, quand nous n'avions pas de relation vivante avec lui, nous étions exactement comme ce fou dont le cœur ne peut que le mener du mauvais côté, du côté de la dérision, du côté de la désobéissance, du côté du péché. Oui, nous étions comme ce fou qui nous est décrit ici. Malheureusement, la folie au sens biblique concerne bien des gens, y compris celles et ceux qui ont du pouvoir. Et la suite du texte nous le laisse entendre. Je lis les versets 4 à 7. « Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. » Et force est de constater que parfois, ce ne sont pas les plus riches, les plus sages, qui se retrouvent à la tête d'un pays ou d'une entreprise ou même d'une église. Ce ne sont pas forcément toujours les plus sages. Et le Qohélète, comme bien d'autres choses, qualifie cela comme un mal. C'est un mal qu'il y ait des gens qui ne soient pas suffisamment sages et qui occupent des postes élevés. C'est un malheur pour nous de devoir subir cela. C'est déplorable, c'est frustrant que la folie puisse avoir de nombreux postes élevés. Et les versets 5 et 6 décrivent un monde à l'envers. Ceux qui étaient normalement préparés à de hautes fonctions n'y accèdent pas, et ce sont des personnes inexpérimentées qui accèdent au pouvoir. J'ai entendu des histoires concernant des églises dirigées par une seule famille, celle du fondateur, pasteur de père en fils. Or, parfois, le fils n'est pas forcément le plus compétent. Et cela fait beaucoup de mal à l'Église. Un autre, en dehors de la famille, aurait fait l'affaire. Et le verset 4, si vous le regardez avec moi, nous donne une situation où il est question de réagir avec sagesse. Et c'est là que nous pouvons examiner notre cœur. Si votre chef s'en prend à vous, parce que ce jour-là, il était de mauvaise humeur, s'il s'emporte contre vous de manière injuste, comment réagissez-vous ? Pour ceux qui étudient, pensez à un professeur. Si un professeur vous traite injustement, comment réagissez-vous ? Et pour ceux qui ne travaillent plus, cela doit aussi vous faire penser à certaines situations que vous avez peut-être vécues. Parce que malheureusement, c'est des situations qu'on vit. Avez-vous vu le conseil du Qohélète ? Qu'est-ce qu'il nous dit ici, au verset 4 ? « Ne quitte pas ta position. Ne t'emporte pas à ton tour. Reste calme. » Tu éviteras ainsi de pécher. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Le calme est le propre du sage. La colère mal contrôlée est le propre du fou. Un commentateur disait qu'il valait mieux avoir seulement une personne en colère, c'est-à-dire votre chef, que deux, c'est-à-dire avec vous. Il valait mieux une personne que deux en colère. Écoutez ces versets tirés du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 12, verset 16. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbes 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Et Proverbes chapitre 17, verset 27. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Vous entendez la sagesse dans ces proverbes ? Comment réagissez-vous dans ces conditions lorsque vous êtes traité injustement ? Le Seigneur, dans la sagesse qu'il veut nous inculquer, nous dit de garder notre sang-froid. Oui, il y a des choses qui peuvent nous irriter. Mais il s'agit de ne pas pécher. Et souvent, lorsque nous nous mettons en colère, le risque, c'est que nous péchions derrière. C'est exactement ainsi que Jésus, notre modèle par excellence, a accepté un traitement injuste de la part des dirigeants de son temps. Au moment où Jésus a été accusé à tort, il est resté calme. Vous avez remarqué ou pas ? Il n'a rien dit. Et l'apôtre Pierre nous rappelle que le Seigneur nous donne là un exemple. Ce n'est pas seulement qu'il est dans une situation particulière, il doit mourir pour nous et donc il se laisse faire. Mais il y a un exemple à prendre ici. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première lettre. 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 24. « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. » Et on pourrait dire aujourd'hui « employés, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos employeurs. » Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Rendez-vous compte de l'exemple de notre Seigneur, qui face à l'injustice de son traitement, et combien l'injustice était claire, a gardé son sang-froid, a gardé le calme. Et c'est l'exemple qu'il nous laisse pour toutes les situations où nous nous retrouvons aussi face à une injustice. En supportant sans broncher l'injustice qui lui était faite, Jésus nous montre comment nous devons réagir face à un dirigeant colérique. Et même Pierre dit à l'esprit pervers. Face à la folie, il ne s'agit pas de répondre par la folie et s'emporter, se mettre en colère soudainement et peut-être dire des mots qui dépassent notre pensée. Eh bien ça, c'est de la folie, même dans ces situations-là. Souvenez-vous, le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur du fou du mauvais côté. Or, si nous avons l'Esprit de Christ en nous, alors il nous est possible de réagir exactement comme Christ. Si son Esprit habite en nous, alors nous finissons par ressembler à Jésus et à réagir comme lui a réagi, ne rendant pas l'insulte pour l'insulte. Le Qohélète nous dit bien dans notre texte que le calme évite de grands péchés, comme des paroles qu'on finirait par regretter, par exemple, ou comme une attitude dont nous finirions par avoir honte. Le calme évite de grands péchés. Chrétiens, nous sommes appelés à refléter Christ dans toute notre conduite, et en particulier dans cette situation-là. Lui qui a souffert en premier lieu pour nous et qui nous en a montré l'exemple. Ce matin, examinons notre cœur pour savoir si c'est la sagesse ou la folie qui est en train de l'animer. Reconnaissons là où nous pouvons faire preuve de folie, parfois dans notre emportement, peut-être facile. Et la suite nous aidera aussi à savoir où nous en sommes. Et je vous propose d'examiner notre activité. Versets 8 et 9, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elles, et celui qui fend du bois s'expose au danger. » Comment comprendre ces versets, dont les verbes sont traduits au futur ?« Celui qui creuse une fosse y tombera. » Est-ce que c'est une promesse ? Et si c'est le cas, comment comprendre la suite du texte, la suite du verset 8 ?« Celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. » Est-ce une promesse ? Non, il semble que le Qohelet se réfère ici à des activités ordinaires, à des travaux qui potentiellement peuvent nous exposer au danger. Entreprendre par exemple la rénovation d'une maison ou faire même de petits travaux chez soi comporte des risques. Il suffit d'être un peu maladroit, de se frapper sur le doigt, ben on se blesse. Pourtant, en soi, l'activité n'est pas dangereuse, mais on peut se faire mal. Bien entendu, on espère que tout se déroule bien. Mais combien, effectivement, se blessent en maniant un outil ou en transportant un meuble ? Et je me souviens d'un frère qui menait aussi des travaux chez lui et qui a découvert un essaim de guêpe dans son jardin. Résultat, il s'est fait piquer. Dans la société d'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous ne sommes pas toujours à l'aise avec l'idée que telle activité comporte un risque. Mais la réalité que le Qohelet décrit très bien ici, c'est que dans ce monde imparfait, nous pouvons être maladroits et nous blesser. Oui, ça arrive. Nous pouvons entreprendre un projet sans être garantis de son succès. Le risque de zéro n'existe pas dans notre monde. Dans tout ce que nous pouvons entreprendre, il y a toujours une part de risque, plus ou moins grande. Est-ce que dans ces conditions, nous n'allons rien entreprendre et rien faire parce que nous avons peur du risque ? Non, bien évidemment. Mais nous aurions tout intérêt à user là aussi de sagesse. Et c'est l'objet du verset 10. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Autrement dit, le fou est celui qui manie une hache qui ne coupe plus très bien. Et il continue, et il continue, et il continue encore, et il finit par se fatiguer. Et le Qohelet a toujours le même discours. La sagesse présente bien des avantages, dont celui de mener au succès. Autrement dit, le sage prendrait la hache, lui, l'aiguiserait et travaillerait beaucoup plus efficacement. Et nous voyons là que la sagesse ne concerne pas seulement l'attitude morale, mais aussi des choix très pratiques, utiles au quotidien. C'est ce que nous appelons aussi le bon sens. Oui, nous sommes appelés à faire preuve de bon sens. C'est du bon sens que d'aiguiser son outil pour le rendre plus efficace. C'est du bon sens de chercher la bonne méthode pour étudier ou pour travailler plus efficacement. Et c'est un professeur qui a étudié la méthodologie qui vous le dit. C'est peut-être aussi du bon sens, je le dis un peu pour rire, de lire parfois la notice avant d'utiliser un appareil. Combien de temps, parfois, on peut perdre parce qu'on n'a pas lu la notice. C'est juste du bon sens, mais la Bible nous appelle à cela aussi. Et le verset 11 est un peu plus difficile à interpréter. Voici ce qu'il dit. « Si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. » Comment comprendre cette sorte de proverbe ? On sent que c'est quelque chose qui ressemble plus au proverbe. Ici, cette parole ne s'adresse pas au charmeur de serpent. D'accord ? Mais que représente le serpent ici ? Et que représente le charmeur ? Est-ce une mise en garde contre ce qui est trop risqué ? Après tout, il est dangereux de jouer avec un serpent qui peut mordre. Et nous avons là peut-être un appel à être raisonnable. Oui, toute activité comporte un risque, mais certaines plus que d'autres. Par exemple, escalader une tour à main nue et sans sécurité n'est sans doute pas un risque à prendre. Et je crois que personne d'entre nous ne se lancerait dans un tel défi, mais nous savons que certains le font et même en meurent. La sagesse consiste, comme nous le disons parfois, à ne pas jouer avec le feu. Examinons notre activité à la lumière de ce que nous venons de voir. Examinons aussi la manière dont nous gérons notre temps. Suivons-nous la bonne méthode dans la gestion de temps? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le temps est court. Les jours sont mauvais. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de ténèbres. Rachetez le temps. Rachetez le temps, c'est faire preuve de sagesse. C'est faire la volonté du Seigneur. Et cela consiste à ne pas se lancer dans des paris risqués et dans des prises de risques inutiles, mais à saisir les occasions de faire le bien sous toutes ses formes et envers tous. Saisir les occasions de faire le bien sous toutes ses formes et envers tous. Voilà comment nous pouvons racheter le temps. Et c'est ce qui convient à des personnes qui ont été rachetées précisément par Christ et qui ont été libérées du péché. Quelques versets avant, Paul écrit « Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Sommes-nous raisonnables avec notre temps, avec l'usage de notre temps? J'ai bien peur, parce que je vis dans le même monde que vous, que bien souvent nous employons notre temps et notre énergie à courir après les biens et les distractions de ce monde. Et après cela, avons-nous encore le temps pour faire de bonnes œuvres qui témoignent que nous sommes des enfants de lumière? Est-ce que nous nous exposons, est-ce que nous exposons notre âme au danger en allant dans cette direction? En gaspillant notre temps? Et je suis le premier à confesser que je suis coupable de cela. Ne sous-estimons pas l'attrait de tout ce que ce monde propose. Mais en même temps, écoutons Dieu. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Oh oui, Seigneur, apprends-nous à être sages en rachetant le temps et dans toute notre activité. Avec ton esprit, nous le croyons, c'est possible. Nous avons jusque-là examiné notre cœur et notre activité. Et la dernière partie du chapitre 10 nous invite à examiner aussi notre langue. Et c'est un thème récurrent que nous retrouvons dans les écrits de sagesse. La langue peut produire de bons comme de mauvais effets. Vous connaissez peut-être ce proverbe biblique qui souligne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ce petit organe que nous avons et que Dieu nous a donné, nous pouvons faire de grands dégâts, comme nous pouvons faire beaucoup de bien. Ainsi, nous lisons les versets 12 à 14 de notre texte. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie. Et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles, pourtant l'homme ne sait pas ce qui arrivera. Et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui? Parlons-nous comme le sage ou comme le fou dans notre texte? Ce qui sort de notre bouche est-il plein de grâce ou expression de notre folie? Et assurément, c'est du côté de la sagesse que nous devons nous situer. Personne ne voudrait causer sa propre perte à cause de sa langue mal employée. Et pourtant, le Qohelet ne donne pas ici d'exhortation, mais il décrit un peu plus longuement le mauvais usage de la langue. Et cela doit nous servir d'avertissement. Et en particulier le verset 14. Le fou croit savoir, et il parle beaucoup. Pourtant, il est logé à la même enseigne que les autres. Il ne sait pas en réalité ce qui arrivera. Mais il est vrai que nous croiserons, ou que nous avons déjà croisé sur notre chemin, des personnes qui prétendent tout savoir, qui nous annoncent ce qui doit arriver. Et je ne parle même pas ici de faux prophètes. Simplement des gens qui sont sûrs de leur pseudo-savoir et de leur expérience et qui aiment nous annoncer l'avenir pour nous dire « je te l'avais bien dit » ensuite. Dieu nous dit dans sa parole que nul ne sait ce qui arrivera. Nous n'avons pas à jouer les devinettes, ni les prophètes. L'être humain n'est jamais en maîtrise de son avenir. Il ne peut pas contrôler les circonstances. Tout est dans la main de Dieu et non dans la sienne. Le sage, lui, le sait, et il se tait. Mais le fou multiplie les paroles, croyant savoir. Alors comment le sage doit-il parler dans ce cas-là? Eh bien, avec plein de grâce. Nous pouvons comprendre cela de deux manières. Quand le sage parle, ses mots et ce qu'il communique est bienfaisant pour ceux qui l'écoutent. Ou bien, quand le sage parle, il gagne la faveur des autres. Et en réalité, les deux effets vont ensemble. Et nous sommes exhortés dans la parole de Dieu à faire bon usage de notre langue. Écoutez ces versets de la part de l'apôtre Paul et de la part de Jacques. Éphésiens chapitre 4, verset 29. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Jacques chapitre 3, versets 9 et 10. « Par elle, c'est-à-dire la langue, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. » Les versets que je viens de dire sont clairs. Pour celles et ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont été rachetés au prix du sang de Christ, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il ne faut pas que dans notre bouche se mêlent bénédiction et malédiction. Le sage veut seulement bénir. Bénir Dieu et bénir son prochain en parole. Le Qohélète exhorte bien dans ce sens d'ailleurs à la fin de notre texte. Si nous regardons le verset 20, « Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. » Nous pouvons ne pas être d'accord avec ceux qui nous dirigent, que ce soit le gouvernement, ou que ce soit notre patron, ou encore quelqu'un qui a autorité sur nous. Nous pouvons ne pas être d'accord avec eux. Mais n'ayons même pas la pensée de maudire de telles personnes, y compris quand elles agissent dans leur folie. Le Qohélète emploie cette expression poétique de l'oiseau qui peut emporter nos paroles, comme nous dirions nous-mêmes que les murs ont des oreilles. Les choses finissent parfois par se savoir. Ce que tu as répété peut-être à un collègue concernant ton patron, eh bien, peut lui être rapporté, même si tu ne le voulais pas. Ne souhaite pas le mal pour ceux qui te paraissent incompétents, pour ce manager en poste qui fait tout sauf bien son travail. Et je n'entrerai pas dans tous les détails des exemples donnés par le Qohélète concernant des situations de leadership déplorables. Lorsque, par exemple, un pays est gouverné par quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Et nous avons sûrement des exemples en tête de toute façon. Mais le Qohélète donne ici des conseils sur l'usage de la langue, et c'est tellement important ce matin que nous puissions réfléchir à cela et examiner ce que nous en faisons. Parce que c'est à la fois examiner notre langue, mais c'est en réalité, de manière plus profonde, examiner nos pensées. Parce que comme le disait Jésus, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc il faut revenir à la source aussi. Et être sage, ça signifie donc savoir maîtriser sa langue. Et c'est aussi savoir ce que Jésus a enseigné à ce sujet. Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37. « Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Et cela nous amène à réfléchir. Ce n'est pas rien de prononcer une parole, même une petite parole. Dieu en tient compte. Dieu tient compte de toutes nos paroles. Dieu veut aussi sanctifier notre langue, afin que nous sachions dire des paroles qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Posons-nous la question, est-ce que mes paroles font du bien à ceux qui m'entourent, à ceux qui vivent avec moi, à ceux qui travaillent avec moi? Et au travail, justement, suis-je plus connu pour dire du mal des autres ou pour dire du bien des autres? Et si nous avons plus tendance à exprimer des paroles qui font mal, alors nous revenons au début. Et il nous faut examiner sérieusement ce qui est dans notre cœur. Car c'est là que réside le problème. Pensons de nouveau à Jésus. Jésus qui n'a jamais prononcé une parole de trop. Et à coup sûr, qui a toujours exprimé avec amour et vérité ce qu'il devait dire. Si l'Esprit de Christ habite en nous, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible pour nous de vouloir bénir notre prochain plutôt que de le maudire. Nous venons de passer un bilan de santé spirituelle. Et il s'agissait de savoir si nous étions sur le chemin de la sagesse ou si nous étions engagés, peut-être sans nous en rendre compte, sur le chemin de la folie. Nous avons examiné à la lumière du texte d'aujourd'hui notre cœur, notre activité et notre langue. Et nous avons peut-être reconnu que nous avions encore des progrès à faire, que la sagesse n'était pas toujours ce qui animait nos paroles ou nos actions. En réalité, un seul, Jésus-Christ, a parfaitement été juste. Et par son sacrifice, nous a justifiés. Et si nous voulons être plus sages, c'est possible uniquement par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. En dehors de cela, impossible de songer à vouloir être plus sage. Si nous voulons suivre la voie de la sagesse, c'est possible uniquement en regardant à Jésus, le maître sage par excellence, qui a vraiment vécu ce qu'il a enseigné. Et assurément, Jésus a toujours agi avec sagesse. Devant la folie des autorités, il a gardé son calme. Dans ses activités, il n'a jamais mal géré son temps. Tant que son heure n'était pas venue, il était à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Et concernant ses paroles, l'Écriture nous rend ce témoignage qu'il n'a jamais usé de sa langue pour tromper. Jésus est non seulement notre modèle en matière de sagesse, mais aussi notre Sauveur qui nous rend sages. C'est lui qui nous rendra sages, et toujours plus. Et c'est ça notre espoir. C'est lui qui nous gardera de la folie si nous nous confions en lui, si nous regardons à lui, à son exemple. Et maintenant, approchons-nous de notre Seigneur dans la prière pour implorer son aide et afin de vivre en toute sagesse et en toute dépendance à son égard. Notre Père, nous devons bien le reconnaître devant toi. Nous faisons encore preuve de folie, parfois dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous conduire avec les autres, dans nos paroles, qui parfois ne t'honorent pas, dans nos pensées, qui bien souvent sont trop honteuses pour être dites. Oui, nous reconnaissons tout cela et nous te demandons pardon, parce que c'est avant tout contre toi que nous péchons. C'est avant tout toi que nous déshonorons lorsque nous avons une telle attitude qui s'apparente à celui du fou. Mais merci parce que notre espoir en Jésus est que tu veux nous rendre sages. D'où toutes ces exhortations que nous avons lues. D'où ce texte de l'Ecclésiaste encore pour nous aujourd'hui, qui nous permet de regarder à Jésus, parce que Jésus est l'exemple parfait, qui s'est conduit en toute sagesse, dans toutes les situations, même les plus injustes, il nous a montré l'exemple. Merci Seigneur, parce que non seulement c'est cet exemple que nous voulons suivre, mais nous avons aussi la certitude que ton esprit œuvre en nous pour que nous puissions davantage ressembler à Jésus. Oui, nous voulons grandir en sagesse, en maturité, faire attention à notre cœur. Et montre-nous encore, Seigneur, ce qui est de l'ordre de la folie en nous. Nous voulons faire attention à notre activité et à la manière dont nous faisons usage de notre temps. Nous voulons racheter le temps comme tu nous le demandes, Seigneur. Et également, nous voulons examiner notre langue et la manière dont nous parlons, la manière dont nous pouvons dire certaines choses. Accorde-nous, Seigneur, de prononcer des paroles pleines de grâce, des paroles qui encouragent les autres, des paroles qui peuvent fortifier celui qui est découragé. Merci, Seigneur, parce que en Christ, cela est possible. Et que tu te charges, Seigneur, de nous transformer, de nous renouveler, pour que nous puissions être de plus en plus sages. Merci pour cette espérance que tu nous accordes. Et merci de nous conduire durant aussi la semaine qui est devant nous à pouvoir agir avec sagesse selon ta parole, selon ta volonté. Et c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous t'adressons cette prière ensemble. Amen.